J'aimerais parler sur oublier ce qui est en arrière, dans Philippiens, chapitre 3 et au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous avons tous connu des déceptions un jour ou l'autre dans notre vie à cause de situations injustes. Peut-être qu'on s'est moqué de vous à cause de vos origines, à cause de votre couleur de peau. Peut-être c'est dans votre famille qu'il y a eu des rejets, des conflits. Même enfants, certains parents abandonnent leurs enfants, ce sont des souffrances qui sont créées, ou c'est au travail qu'on vous a fait comprendre que vous n'étiez pas à la bonne place, on vous a mis de côté, ou vous avez été trahi par un ami. Toutes ces situations que nous connaissons, que nous traversons, font partie de la vie. Le problème, c'est que quand nous vivons le passé au présent et que nous ressassons toujours les choses du passé, nous ne pouvons pas avancer. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour avancer dans la vie chrétienne, pour vivre cette nouveauté de vie des enfants de Dieu, il faut arriver à tourner la page de ce qui est passé, de ce qui est derrière nous, peut-être de ces souffrances, de ces difficultés, de ces choses qui nous ont blessés, et d'avancer maintenant en regardant vers le but et regarder vers le Seigneur. Certains, effectivement, entretiennent les blessures et n'arrivent pas à vivre cette partie du verset « les choses anciennes sont passées », parce que pour eux, les choses anciennes sont toujours présentes. Ils vivent avec des blessures, ça fait 10 ans que ça s'est produit, mais c'est toujours là dans leur cœur, comme si c'était hier. En mangeant, ils y pensent. Le soir, avant de dormir, ils y pensent. Ça les accompagne toute la journée. Et quand on est attaché à cette blessure du passé, on ne peut pas courir vers le but et on ne peut pas aller de l'avant. On sait qu'une personne, en moyenne, elle peut courir à 10 km/h quand elle court tranquillement. Mais si elle a un sac sur les épaules, un sac de 40 kg, 50 kg, alors elle ne pourra pas courir à cette vitesse-là. La plupart du moins, elle pourra marcher difficilement, mais pas courir. Parce que pour courir, il faut être dégagé du fardeau. Dans la vie chrétienne, pour courir, il faut être dégagé des souffrances du passé. Et comme Paul dit, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Si on n'oublie pas ce qui est en arrière, si on a toujours les blessures du passé qui sont là comme un poids pesant, alors on ne peut pas vivre la fin du verset qui est « Je me porte vers ce qui est en avant et je cours vers le but ». Et ça, c'est notre objectif. Prenons l'exemple de Paul qui n'a pas eu toujours la vie facile. Il a tout de suite connu des persécutions dès sa conversion. Les Juifs voulaient le mettre à mort. Il a connu aussi des emprisonnements par les non-Juifs quand il prêchait la parole de Dieu. Il a même été lapidé. Mais les pires blessures qu'il a eues, ce ne sont pas par les païens qu'il les a eues, c'est par les chrétiens des différentes églises qu'il avait fondées, notamment les Corinthiens qui lui ont fait beaucoup de mal. Et on dit souvent que les blessures les plus profondes, ça vient des personnes qui sont de notre entourage, soit la famille ou dans l'église, il s'agit des chrétiens. Et Paul a souffert beaucoup, et le plus de fois on voit Paul souffrir, ce n'est pas quand il est lapidé, ce n'est pas quand il est en prison, ce n'est pas quand il subit les représailles des Juifs, mais c'est quand il vit la méchanceté de certains chrétiens qui lui veulent du mal. Et là, Paul a souffert de ces situations, il le dit dans ses lettres. Pourquoi ? Parce que dans l'Église, il y a des grandes attentes et aussi des grandes souffrances, du coup des grandes déceptions. Paul, dès le début de sa conversion, a été mis en contact avec les ministères. Très rapidement, il a prêché l'Évangile. Il a côtoyé Barnabas, qui était déjà un prédicateur. Et puis, Il a rapidement été appelé par Dieu à partir en voyage missionnaire. Mais il y a eu un conflit avec Barnabas, c'est dans Actes chapitre 15, verset 39. Barnabas voulait emmener Marc avec lui, et Paul ne voulait pas parce qu'il l'avait abandonné lors d'un précédent voyage. Et au verset 39 de Acte 15, c'est dit « Ce dissentiment, donc entre Paul et Barnabas, il y avait un profond désaccord entre les deux hommes de Dieu. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. » Donc Paul et Barnabas étaient des amis, ils avaient déjà fait tout un voyage missionnaire ensemble, ils avaient vu la gloire de Dieu, mais maintenant ils vont se séparer. Et ils vont se séparer suite à un conflit. Alors, Paul aurait pu en vouloir à Barnabas, Barnabas aurait pu en vouloir à Paul, ça aurait pu faire des rancunes, mais finalement, ils se sont mis d'accord pour aller chacun de leur côté. Et il y a eu deux équipes missionnaires qui se sont mises en route. Donc, Barnabas est parti avec Marc, et l'avantage de cette solution, finalement, c'est que ça a suscité un nouveau ministère qui s'appelle Silas, ou Sylvain, suivant les traductions. Et c'est lui qui va accompagner Paul dans ses voyages missionnaires. Donc, du coup, ce désaccord qui aurait pu être mal géré avec de l'amertume, avec des blessures, sans vouloir, eh bien, ça a généré une bénédiction, puisque une équipe est partie d'un côté et l'autre équipe est partie d'un autre côté, ce qui a permis de démultiplier l'annonce de l'Évangile dans différents lieux. Les désaccords, il y en a. Jésus en a connu. Il a connu les désaccords avec les disciples qui l'ont suivi tout un temps, mais lorsqu'il a commencé à enseigner des choses plus profondes et qu'il a dit « si vous ne buvez mon sang et si vous ne mangez ma chair, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu », à ce moment-là, certains ont cru, ont pris ses paroles littéralement, ont considéré qu'il n'était pas possible de suivre son enseignement. Donc on connaît cela. Dans l'histoire de Marc, qui avait suivi Barnabas, on se rend compte dans la suite du récit que Paul a reconnu que Marc finalement était utile dans le ministère et que le fait qu'il soit parti avec Barnabas a été une bénédiction. Donc il a su oublier ce désaccord de base entre Paul et Barnabas. Donc Paul a su oublier cette affaire, tourner la page, reconnaître la main de Dieu et continuer son chemin. Et c'est comme ça que Paul a avancé tout au long de son ministère, oubliant ce qui est en arrière, pardonnant, abandonnant à Dieu les situations. Et c'est comme ça que vous pourrez vous porter vers ce qui est en avant. Si vous avez encore de la rancune, si vous avez encore des choses de votre passé qui vous lient, vous ne pourrez pas tourner la page et vous ne pourrez pas aller de l'avant comme Paul l'a fait. Paul aussi a été critiqué par certains chrétiens de Corinthe dans 2 Corinthiens 10:10. Voilà les paroles qu'il disait. C'est pourtant des chrétiens qui parlent. « Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. » Ça, c'est les Corinthiens qui disaient ça. Enfin, certains, du moins, certains de l'église de Corinthe. Mais il disait « présent en personne ». Paul, donc, il est faible et sa parole est méprisable. Voilà ce que les gens disaient sur Paul. C'est étonnant pour nous parce que Paul, pour nous, c'est vraiment un homme de Dieu extraordinaire et personne ne pourrait dire des choses pareilles. Mais voilà la réalité de ce que vit Paul, alors qu'il a fondé ses églises, eh bien, des chrétiens le critiquent. Alors, il n'était même pas présent pour reprendre ces personnes ou pour corriger les calomnies qui étaient déversées sur lui et il ne pouvait rien faire. Et certains, un jour, vous feront du mal et vous ne pourrez rien faire parce que ce sont des choses qui vous échappent. Mais en tout cas, il y a un principe dans la parole de Dieu que je remarque. C'est que quand on parle contre l'œuvre de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre ceux qui font le ministère, eh bien, immanquablement, on est frappé de lèpre spirituelle. C'est arrivé à Marie et à Aaron, qui pourtant étaient à la place juste après Moïse. Juste après Moïse, il y avait Marie et Aaron, donc deux hauts responsables. Eh bien, ils ont commencé à parler contre Moïse et la Bible dit que Dieu a frappé Marie d'une lèpre. Et il a fallu que Moïse, le serviteur de Dieu, prie pour elle pour qu'elle soit guérie. Et là, il y a un grand principe spirituel qu'on voit aussi avec Paul, parce que ces chrétiens qui méprisaient le ministère que Dieu avait donné à l'Église, ici il s'agit d'un apôtre, Mais ça peut être un ancien, ça peut être un pasteur, ça peut être un prophète, n'importe quel ministère, n'importe quel don que Dieu a donné à l'Église, n'importe quel serviteur ou servante. Eh bien, le fait de juger, critiquer, condamner, eh bien, spirituellement, on attrape une maladie. On attrape une maladie qui nous affaiblit et qui va produire la mort. Et si, en fait, si Moïse n'avait pas prié pour Marie qui était atteinte de cette lèpre, elle serait morte. Donc il a fallu à un moment donné que Moïse lui-même répare la chose. Donc Paul explique le principe de la communion que nous devons avoir entre chrétiens. Donc il montre que dans l'église de Corinthe, il y avait quand même des difficultés, des caractères qui devaient être changés, des paroles qui ne devaient pas être dites et des choses qu'il fallait demander pardon. Philippiens 2.1, il explique maintenant comment on doit vivre la communion. Et c'est très différent des Corinthiens. Philippiens, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, voilà comment nous devons vivre en tant que chrétiens. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Et la joie de Paul est parfaite quand il voit l'Église qui est dans le même sentiment, un même amour, une même âme et une même... Est-ce que c'est possible de vivre ça? Il n'y a pas beaucoup de « Amen ». Il y en a eu un. Mais oui, en fait, c'est ça la volonté de Dieu. Et si on vit ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rendre ma joie parfaite à moi. Parce qu'il n'y a pas plus grande joie pour un pasteur que de voir l'Église qui vit dans un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Alors si vous voulez rendre ma joie parfaite, allez-y. On y va? Ah voilà, amen. Et oui, Toulouse-Ouest. Parce que, voilà, on se laisse aller, on se laisse un peu séduire, il y a des murmures de ci, il y a des paroles de là, on se laisse disperser. Mais revenons à la parole, parce que la parole, c'est vraiment la boussole pour nous. Et en fait, on se rend compte que quand on ne médite plus la parole de Dieu, on s'affaiblit spirituellement, on est plus fragile et on suit les chemins détournés qui sont les mauvais sentiers et on s'écarte du, on va dire, du plan. Ça, c'est le schéma, ça, c'est le plan de Dieu. Même sentiment, même amour, même âme, même pensée, voilà. C'est ce qui devrait rester en face de nous continuellement. Mais comme on est affaibli spirituellement, alors on va avoir du dissentiment, on va pas avoir d'amour, on va avoir de la haine, on va pas être unis, mais on va se diviser, et puis nos pensées vont se fracasser les unes contre les autres. Donc on sera pas du tout dans la parole de Dieu. Mais Paul, ça a été plus loin, parce que non seulement des chrétiens... Alors, je ne dis pas que c'était tous les chrétiens, vous avez remarqué, je dis des chrétiens, parce que c'est souvent comme ça. C'est des chrétiens, mais le problème, c'est que même s'il n'y en a pas beaucoup, ils font beaucoup de bruit. Et des chrétiens, même un petit nombre qui parlent mal, ça fait beaucoup de dégâts. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Ce n'était pas la majorité, mais c'était des éléments suffisamment nocifs pour que ça contamine beaucoup de personnes. Et donc, plus loin, il est dit qu'il a été trahi, tout d'abord par Démas, qui est... C'est le compagnon d'œuvre de Paul. Donc Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et puis il parle d'un autre personnage qui s'appelle Alexandre le forgeron. Il dit qu'il m'a fait beaucoup de mal. Il s'agit d'un chrétien ici qui avait fait naufrage par rapport à la foi. Mais s'il a fait naufrage par rapport à la foi, c'est donc qu'il avait eu la foi et qu'il a fait partie de l'Église. Mais il a fait naufrage par rapport à la foi et il s'opposait aux paroles de Paul. Et ça lui a fait beaucoup de mal parce qu'il a vu cet homme louer le Seigneur, il l'a vu servir dans l'Église, il l'a vu faire l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, il est devenu blasphémateur, il est devenu malveillant, il est devenu méchant. Et ça, vous voyez, c'est ça qui lui a fait plus de mal que les persécutions des Juifs et que les mauvais traitements des païens. Et puis, il dit que lors de sa convocation au tribunal, puisqu'il en avait appelé à l'empereur, il se retrouvait devant... l'empereur pour défendre sa cause, il dit que personne ne l'avait assisté. De Timothée 4,16, la première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, nul n'a pris parti pour moi, au contraire, tous m'ont abandonné. » C'est la parole vivante que je lis. Alors il aurait pu devenir amer suite à ses déboires, tout ce qu'il a subi, et puis se dire, après tout ce que j'ai fait, moi j'ai fait du bien. Vous voyez, ça c'est ce qui se passe dans notre tête. La première pensée, on a fait du bien, on a aidé l'un, on a prié pour l'autre, et puis on se reçoit des coups. Alors la pensée qui nous vient, c'est, après tout ce que j'ai fait, eh bien, si c'est comme ça, moi je ne remettrai plus les pieds à l'église. Mais lui, il a choisi une autre voie, et la fin du verset dit, que cela ne leur soit point imputé. Tout le mal qu'ils ont fait, toutes les choses qu'ils ont dit, eh bien que cela, ça veut dire que cela ne soit pas mis sur leur compte. C'est intéressant cette prière. Parce que ça rappelle une autre prière, je ne sais pas si vous voyez quelle prière, peut-être deux prières. Une de Jésus sur la croix, mais une autre qui est arrivée après, celle d'Étienne. Étienne a fait pratiquement la même prière quand il était lapidé. Il a dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et Paul faisait partie de ceux qui gardaient les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Et donc, Paul était au bénéfice de la prière d'Étienne. Vous voyez, c'est intéressant ça. Étienne a prié pour Paul et tous ceux qui le lapidaient. Et là, ici, c'est Paul qui prie pour ceux qui lui font du mal, mais pratiquement la même prière. Vous vous rendez compte que la prière, elle est puissante et elle se transmet en fait. Et si vous êtes au bénéfice de la prière d'un autre, eh bien un autre sera au bénéfice de votre prière. Ça, c'est une bénédiction. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, donc que cela ne soit pas mis sur leur compte, pardonne-leur, entre guillemets, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce que Jésus a dit sur la croix. Mais il dit, le Seigneur m'a assisté et il m'a donné la force nécessaire. Et il n'y a que Dieu qui pourra vous donner la force nécessaire pour remonter la pente, pour pardonner, pour aller de l'avant. Un jour, il y avait un père qui était parti en bateau avec son fils pour aller à la pêche. Et ils ont planté l'ancre dans l'eau, au fond donc du lac où ils étaient. Et voilà qu'ils avaient terminé leur pêche et qu'ils voulaient rentrer à la maison. Et donc le père a tiré sur la corde pour ramener l'ancre. Sauf que l'ancre était coincée dans le fond du lac, impossible de la remonter. Alors ils ont essayé tous les moyens, ils ont secoué la corde, ils ont essayé de la bouger pour essayer de décaler l'ancre. Non, elle était complètement coincée. Et donc ils n'avaient pas d'autre choix que de couper la corde pour que le bateau puisse rentrer sur la rive. Et ça, c'est une image pour nous parler qu'à un moment donné, si on est accroché à cette ancre qui est peut-être plantée dans justement ce passé, une souffrance passée, une situation d'amertume, tant qu'on y est accroché, on ne pourra pas avancer. Mais si vous coupez la corde, le bateau, il va pouvoir rentrer à la rive. Et ça, c'est vrai pour Paul quand il dit, oubliant ce qui est en arrière, c'est comme s'il coupait la corde. Un autre exemple, c'est celui d'Abraham qui était parti pour le pays de Canaan avec Lot. Sauf que Lot, qui était son neveu, n'a pas suivi les traces d'Abraham. On ne le voit jamais prier, on ne le voit jamais bâtir un hôtel. Bref, il suivait Abraham, mais il ne suivait pas Dieu. Et il y a eu une querelle entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham lui propose de faire son choix. Où est-ce que tu veux aller? Il faut qu'on se sépare. Et Lot, il a vu la plaine arrosée du Jourdain comme un jardin de l'Éternel. Genèse 13, verset 11. La Bible dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent, donc Abraham d'un côté et Lot de l'autre. Voyez les choix qu'on fait quand on ne prie pas, quand on fait des choix impulsifs. Ça nous plaît, ça nous parle, ça nous paraît comme le jardin de l'Éternel. On ne voit pas que Lot a prié pour chercher la volonté de Dieu à un moment donné. Non, ça doit être la volonté de Dieu parce que c'est comme un jardin de l'Éternel. Eh bien, les choix qui nous paraissent bons humainement ne sont pas toujours les choix de Dieu. Ils peuvent être très mauvais. Ici, dans ce cas, il était très mauvais. Ici, on voit que vous pouvez côtoyer un homme de Dieu comme Abraham, être à son bénéfice de ses prières, mais si vous ne priez pas vous-même, ce n'est pas Abraham qui va faire les choix pour Lot. À un moment donné, vous devez prier vous-même pour vos propres choix. Et si vous ne priez pas pour vos choix et que vous dites « je compte sur le pasteur, je compte sur les anciens, je compte sur un ami, sur ceci, sur cela », et que vous faites vos choix par vos propres consciences, et vous ne priez pas vous-même, ben vous choisirez la mauvaise ville, vous choisirez les mauvaises fréquentations, vous irez dans les mauvaises directions, vous habiterez dans les mauvais endroits, bref, vous ferez les choix les pires, même au niveau du travail, ce ne sera pas les bons. Et c'est ainsi que Lot est l'exemple typique du croyant qui passe à côté du plan de Dieu pour sa vie. À côté, pourquoi ? Par manque de prière, manque de sérieux, manque de consécration. Donc, du coup, Lot a suivi son chemin, il s'est installé à Sodome et Gomorre, Abraham a suivi son chemin, il a construit un hôtel à l'Éternel. Première chose qui se passe après la séparation des deux hommes, l'un va s'étaler dans la ville et vivre des plaisirs de cette ville, l'autre construit un hôtel à l'Éternel, c'est Abraham. Donc lui, il s'attend aux promesses de Dieu. Donc là, Dieu renouvelle sa promesse. « Je te donnerai le pays à toi et ta postérité. » Donc Dieu ne change pas. En fait, il y a une leçon spirituelle ici, c'est qu'Abraham, il n'avait pas besoin de Lot pour avancer dans la vie. Abraham n'avait pas besoin de Lot parce qu'il avait Dieu dans sa vie. Donc Lot est là, Lot n'est pas là. Pour Abraham, il suit son chemin. Par contre, Lot, il avait besoin d'Abraham pour être au bon endroit. Et ça, il n'avait pas compris, parce qu'en fait, Abraham, c'était celui qui était vraiment en harmonie, en connexion avec Dieu, mais Lot, lui, il aurait mieux fait d'être en communion avec Abraham, et surtout en communion avec Dieu, pour chercher la volonté de Dieu comme Abraham. Donc, Lot avait besoin d'Abraham pour grandir, mais il a préféré se séparer de lui. Donc, il habitait à Sodome, tranquille, mais quand vous êtes tranquille dans une ville de péché, parce que là-bas, c'était la ville de Sodome et Gomorre, c'était le péché complet. Mais lui, il était bien. Mais quand vous êtes bien dans un endroit où il y a du péché, c'est qu'il y a un problème spirituel. C'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas net. Donc, sa conscience s'est affaiblie. Il a commencé à suivre les us et coutumes de la ville. Vous voyez, ça, c'est l'influence du monde, hein, on connaît. Et quelques temps après, vu qu'il il s'est éloigné de l'homme de Dieu, il a fait les mauvais choix, il est allé à Sodome et Gomorre, la ville a été envahie par des ennemis. Et Lot s'est retrouvé dans une sale affaire, enlevé avec sa famille par des armées étrangères. Abraham a pris cette affaire et il a voulu aider son neveu. Il aurait pu se dire, il n'écoute pas Dieu, il n'en fait qu'à sa tête, c'est bien fait pour lui. Non, Lot, c'était sa famille. Il a pris 318 soldats, il est allé le rechercher et le ramener dans sa maison. Il est allé donc à son secours. Abraham a appliqué ce principe, il a oublié ce qui est en arrière et il a pu aller de l'avant. Parce que même si quelqu'un vous a trompé dans votre famille, un peu comme c'est le cas de Lot avec Abraham, il a choisi pour lui ce qui était le meilleur, il a laissé Abraham dans la montagne et les cailloux, lui il a pris la ville. Même si quelqu'un vous a trompé en apparence, même si quelqu'un a fait une affaire dans votre dos, vous avez peut-être raison de lui en vouloir, parce que ce qu'il a fait est mal. Mais si vous nourrissez de l'amertume envers cette personne, c'est-à-dire si Abraham avait nourri de l'amertume envers Lot, alors vous ne pourrez pas aller de l'avant. Et Abraham a choisi d'oublier ce qui est en arrière pour se porter vers ce qui est en avant. C'est un petit peu comme quand l'ordinateur que vous utilisez, votre ordinateur, il est contaminé par des virus des fois. Et imaginons qu'il y a des virus qui gangrènent les systèmes, rien ne fonctionne normalement. Alors il y a encore une solution extrême, hein. Là ça ne fonctionne plus, alors on va faire une restauration complète. Et avec la restauration complète, eh bien, le logiciel s'installe comme à l'origine. Ça enlève tous les virus. Donc on oublie tout ce qui est en arrière et on fonctionne avec un système parfaitement opérationnel. Eh bien, cette restauration, c'est ce qu'on doit faire dans notre esprit. Une restauration complète pour que notre système il soit en harmonie avec Dieu et qu'il fonctionne parfaitement. Un autre exemple, c'est celui d'Achitophel. Achitophel, qui était un des conseillers de David. Il n'est pas très connu dans la Bible, mais c'était un ami intime de David et un conseiller avisé. Tellement brillant à l'époque, dans 2 Samuel chapitre 16, verset 23, on disait « Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avait autant d'autorité que s'il en avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alors voilà, Achitophel, il a retourné sa veste en quelque sorte parce qu'il était pour David pendant tout un temps. Mais quand Absalom s'est emparé de Jérusalem et que David a dû fuir, Achitophel a changé d'attitude et s'est attaché à Absalom. Et il est devenu le fidèle conseiller d'Absalom pour la perte de David. Finalement, on connaît l'histoire, Absalom est mort et Achitophel, voyant que son conseil n'avait pas été suivi puisque Absalom avait choisi de suivre un autre conseil, celui d'Hushaï, eh bien il est allé se pendre. Voilà comment s'est terminée la vie d'Achitophel par un suicide. Mais comment expliquer que cet homme qui suivait David, qui le conseillait pendant des années, a pu aussi rapidement changer d'avis? Et quand on étudie sa vie, on se rend compte que Achitophel, il est mentionné comme le grand-père de Bathsheba. Et on sait que David a commis l'adultère avec Bathsheba et qu'il a tué Uri, qui était le mari de Bathsheba. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé donc dans la famille même d'Achitophel. Et dans le fond, même s'il conseillait le roi, il n'a jamais pardonné au roi ce que David avait fait était mal. Ça, c'est sûr. Il n'avait pas à faire des choses pareilles, même s'il était roi. Mais Achitophel a nourri envers lui de la haine, de l'amertume, et en fait, ça l'a détruit intérieurement, de sorte que quand Absalom est venu, il n'a pas eu de mal à quitter David pour servir l'ennemi de David, c'est-à-dire Absalom. À l'extérieur, tout allait bien, mais à l'intérieur, vous voyez, il était ruminé, un petit peu comme un arbre, vous voyez un arbre, eh bien, à l'intérieur, il y a des insectes qui sont en train de le manger. Alors à l'extérieur, vous ne voyez pas parce que l'arbre est tout à fait normal, mais déjà à l'intérieur, il y a un processus de mort. Et Achitophel a vécu cela, c'est pour ça qu'il a basculé pour aller avec Absalom contre David, mais ensuite il a basculé jusqu'à se donner la mort. Et c'est là où on arrive au point que le salaire du péché, c'est la mort. Ici, c'est la mort physique, mais on sait que c'est la mort spirituelle. Avant la mort physique, il y a la mort spirituelle. Achitophel a donc, par son entretien des choses du passé, eh bien, subi la condamnation qui est venue sur lui. Je termine avec un dernier exemple. C'est celui de Joab. Joab qui était le chef des armées de David, donc un homme vaillant, un homme qui avait remporté de grandes victoires. Et avant de conquérir Rabba, il a fait venir David pour qu'il en ait toute la gloire. Donc on voit que c'était quelqu'un de sérieux, de fidèle, qui aimait David. Il était tellement obéissant que c'est lui qui a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Lui se soumettait aux ordres de David, quels que soient les ordres. Il est resté donc fidèle à David. Même lors de la révolte d'Absalom, on voit que c'était un homme fidèle. Mais il n'a pas accepté quand David a voulu faire la paix avec Abner. Abner, c'était le chef de l'armée de Saül, donc l'armée ennemie. Et Abner avait tué un des frères de Joab. Et donc, Joab avait de la rancune. Il avait de la rancune envers Abner. Et là, il l'a nourri. Alors, il n'a rien dit quand David a voulu faire la paix. David a fait venir Abner. Il a dit, voilà, c'est fini, on tourne la page, on se réconcilie. Vous voyez, David, il avait l'attitude de tourner la page, d'oublier ce qui est en arrière maintenant, de se tourner vers l'avant. Pas Joab. Joab a nourri pendant des années de l'amertume et il se disait, un jour je me vengerai, un jour je tuerai Abner. Et dans 2 Samuel chapitre 3, verset 26, et Joab, après avoir quitté David, donc là il vient d'apprendre que Abner est arrivé au palais et qu'il a fait la paix avec David, il envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sisera. David n'en savait rien. Donc il a fait quelque chose, il savait très bien que David ne serait pas d'accord. Et lorsqu'Abner fut de retour d'Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Donc il a fait un plan, il a usé de la ruse, des stratégies, pour se retrouver seul avec Abner. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. Et là, on voit le problème. C'est un problème du passé. C'était la mort d'Azaël. C'était le frère de Joab. Il était toujours dans son cœur. Il y avait de l'amertume, un esprit de vengeance. Et il s'est dit, un jour, je tuerai Abner. Et quand vous vivez avec ça dans votre cœur, de l'amertume qui est là, un jour ou l'autre, vous allez produire la mort. Mais ce qui est aussi terrible, c'est que non seulement Joab a produit la mort, mais il a appelé la mort sur sa propre vie, du coup, parce que sa vie a été marquée par la violence. Et il aurait pu bien terminer sa vie, mais finalement, il a lui-même été sanctionné à cause de ses nombreux méfaits, et finalement, il est mort lui-même dans la violence. Si vous ne voulez pas oublier ce qui est en arrière, si vous vivez dans l'amertume, donc vous allez produire, semer la mort autour de vous, mais en fait, vous allez appeler sur vous la mort. Déjà la mort spirituelle, parce que vous allez être affaibli spirituellement, mais en même temps, ça va vous mettre dans des situations qui vont être des mauvais chemins. Votre vie est trop précieuse pour la laisser être détruite par un désir de vengeance. Hébreux chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ce sont des principes spirituels. En conclusion, on voit que Paul, ici, nous donne un principe. Ce principe est simple. C'est que pour avancer, il faut d'abord oublier ce qui est en arrière. Il faut sortir de notre cœur, demander à Dieu de nous guérir des blessures du passé, des choses mauvaises qu'on nous a faites, peut-être des choses qu'on a dites sur vous. Parce que si vous n'arrivez pas à tourner cette page, vous ne pourrez pas vous porter en avant et courir vers le but. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant que chrétiens ? C'est courir vers le but. Mais vous ne pourrez pas courir vers le but si vous êtes bloqué à ne pas arriver à oublier ce qui est en arrière. C'est-à-dire, si vous ressassez encore les problèmes du passé, si vous êtes toujours dans le mal qu'on vous a fait, si vous plaignez toujours de cette situation, vous en souffrez encore aujourd'hui, eh bien, priez pour que Dieu vous guérisse, que Dieu vous donne un nouveau cœur, un nouveau départ, pour pouvoir vraiment faire sa volonté et avancer. Jésus a dit « à chaque jour suffit sa peine » et il ne faut pas trimballer aujourd'hui les peines d'hier ou d'avant-hier ou d'avant-avant-hier ou d'il y a un an, d'il y a 10 ans, parce que ça s'accumule, mais il dit « à chaque jour suffit sa peine ». Pour ça, ne portons pas plus de peine qu'une journée. Hier est passé, aujourd'hui est un nouveau jour. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Là, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. C'est quelqu'un qui veut oublier ce qui est en arrière, peut-être la journée d'hier, la journée d'avant-hier, l'année passée, l'année d'avant. Mais je veux regarder la journée d'aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a faite. Et pour que j'avance, qu'elle soit un sujet d'allégresse et de joie, il me faut oublier ce qui est en arrière. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, merci pour ta présence. Nous voulons, comme Paul, saisir par la foi ce principe spirituel et oublier ce qui est en arrière, tout ce qui nous retient au péché, au passé, au manque de pardon, à l'amertume, à des pensées de vengeance, à la haine. Seigneur, nous voulons nous débarrasser de tout cela. Nous te prions de guérir nos cœurs et de nous donner une nouvelle vie, un nouveau départ, afin que nous puissions nous porter pour aller de l'avant et courir vers le but, parce que nous serons trop entravés. Nous ne pourrons pas avancer avec tout ce lourd fardeau du passé. Merci de nous donner un avenir et de l'espérance. Merci d'ouvrir le chemin pour nous. Mais nous voulons faire notre part et abandonner le fardeau entre tes mains. Te demander, Seigneur, de guérir nos cœurs, de guérir nos pensées, de nous donner ta paix, Seigneur, dans les situations injustes, dans les situations de souffrance, dans les situations de rejet, afin, Seigneur, que nous ne soyons pas arrêtés par ces choses-là, mais que, au contraire, nous puissions continuer à te servir et faire ta volonté. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette journée que tu as faite, et nous voulons qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de victoire, un sujet de gloire, un sujet de délivrance, pour la seule gloire de ton nom. Amen.